Zanzibar à Limoilou, de Bamako à Lévis, de Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York.
No country alone can solve this challenge.
On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
Du 191 rue Saint-Paul à Québec, à nous la terre.
Bon mardi tout le monde, salut TP en studio.
Salut Simon, bon mardi.
Cette semaine à l'émission, siliconisation, vie algorithmique et politique de nous-mêmes avec Éric Sadin, philosophe, poète et écrivain. Vous écoutez À nous la terre. Un phénomène impensable est en train de se produire, l'agonie du néolibéralisme. Tous ces excès et la crise du COVID ont confirmé sa nocivité. Nous nous mettons alors à espérer un monde plus juste qui adviendrait grâce au retour de l'État-providence, à la prise au compte des questions écologiques et à une participation citoyenne accrue. Un véritable paysage de cartes postales, en somme. Or, rien de cela ne nous sauvera du pouvoir des algorithmes, de la marchandisation intégrale de nos vies par l'industrie numérique ou du déploiement d'une télésocialité contribuant à notre isolement collectif. Autant de processus qui engendrent de nouveaux types d'assujettissement ignorés de la grande politique. Si nous savons que l'enjeu majeur de notre époque est d'être partie prenante des affaires qui nous regardent, cette aspiration prend des formes trop éparses, ne répondant à aucun projet commun défini en ce sens. À contre-courant de cette tendance, ce livre, celui d'Éric Sadin, « Faire sécession, une politique de nous-mêmes », renouvelle les perspectives d'émancipation en dressant un registre d'action concrète. Cela suppose de mener une critique des discours défendant des intérêts privés, de ne plus subir de situations iniques et de constituer un foisonnement de collectifs dans tous les domaines de la vie, favorisant l'expérimentation, la meilleure expression de chacun, tout en étant soucieux de ne léser ni personne ni la biosphère. Après tant de désillusions, le moment est venu de ne plus nous en remettre à des instances tierces pour nous engager dans une impérieuse et salutaire politique de nous-mêmes. Ce texte introductif, présenté chez les éditions L'Échappée lors de la publication de Faire sécession, illustre assez bien comment nous vivons aujourd'hui de majeures transformations civilisationnelles, tant par l'organisation capitaliste du monde qui accroît son emprise sur la vie grâce aux dispositifs de haute technologie, que par les nombreux bouleversements qui nous frappent de plus en plus fréquemment. Mais sous quelle forme le système capitaliste se meut-il aujourd'hui? Comment en saisir les manifestations? Que révèle cette expansion et l'accueil que nous lui réservons sur nous-mêmes? Et comment, finalement, nous défaire de cette emprise pour expérimenter des formes de vie respectueuses de la vie? Ce sont là quelques questions que nous tâcherons d'aborder aujourd'hui avec Éric Sadin.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Éric Sadin, tu es philosophe, poète, auteur de plusieurs ouvrages, dont « La vie algorithmique »,« La silicolonisation du monde », L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, l'ère de l'individu tyran, publié en 2020, et ton dernier livre, évidemment, Faire sécession, une politique de nous-mêmes, sorti l'hiver dernier en 2021 aux éditions de L'Échappée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Bon, peut-être pour commencer, par rapport à ton livre, mais aussi par rapport à tes derniers ouvrages, ceux-ci portaient principalement sur l'influence qu'exerce l'industrie 4.0 sur nos vies. Tu parlais entre autres dans « La silicolonisation du monde » d'un mouvement civilisationnel qui puiserait ses racines dans les mouvements de libération californiens qui a pris sa forme techno-libertaire au sein de la Silicon Valley et qui s'étend depuis, d'une certaine manière, sur l'ensemble des sphères de nos existences. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce phénomène de techno-industrialisation et sur ses origines?
Ben, ce que j'ai nommé la siliconisation du monde dans un livre qui est paru en 2016, c'était un mouvement qui prenait forme, qui a pris forme très massivement et toujours plus massivement et toujours plus rapidement, qui voulait que, après l'ère de la grande informatique professionnelle qui prend son origine dans la vallée, hein, dans la Silicon Valley, Hewlett-Packard, c'est la première grande industrie qui a fait des puces. À la toute fin des années 40, et c'est cette région qui a été leader pendant des décennies, cette région, ce pays, cette suprématie industrielle, scientifique, technologique, s'est confirmé au moment de l'avènement des ordinateurs personnels, des PC, avec notamment, c'est Microsoft qui après est allé dans d'autres régions, mais c'est évidemment, on pense à Apple, c'est la Silicon Valley, c'est San Francisco, et qui était aux avant-postes encore, qui assurait cette suprématie pendant très longtemps, et jusqu'au moment de la rapide généralisation de l'Internet, au tournant des années 2000, qui a encore vu ce qu'on a appelé la e-économie qui s'est effondrée très rapidement, qui a eu ce collapse en mars 2002, mais qui a vu encore une certaine industrie américaine dite de l'innovation qui s'est majoritairement imposée, bien qu'il y ait eu des compagnies du monde entier, mais c'était surtout aux États-Unis et particulièrement en Californie et en Silicon Valley que une suprématie continuait de prévaloir. Mais quelque chose change. À partir du tournant des années 2010, du début des années 2010, qui fait suite à l'avènement du smartphone. Je me fais un peu historien avec vous là d'abord, parce que c'est important de savoir d'où on vient et comment les choses se sont structurées, ont évolué, se sont instituées et se sont aussi modifiées, hein, et notamment aussi territorialement. Entre ce moment-là, l'apparition du smartphone 2007, qui ne permettait pas seulement une connexion à des sites internet, à l'internet de façon théoriquement ininterrompue d'un point de vue spatio-temporel, ou d'avoir accès à des sites selon une ergonomie adaptée à la surface relativement réduite de l'écran, mais elle intégrait, le smartphone intégrait une dimension décisive. Peut-être voyez-vous de quoi je veux parler. Je veux parler des applications, hein, les applications. C'est ces systèmes qui entendent interpréter par des systèmes d'intelligence artificielle nos comportements de façon évolutive et nous suggérer et nous recommander. Hein. Vous vous souvenez peut-être de la publicité d'Apple qui m'avait marqué, moi, à l'époque. Elle date pourtant. Hein. Je m'aperçois qu'elle a 15 ans, c'était 2007. Il y a une application pour tout. Alors là, à l'époque, il n'y avait pas une application pour tout, mais tendanciellement, il était prévu qu'il y ait presque une application pour tous les mouvements de la vie. C'est ce qu'on a appelé l'économie de la donnée et des plateformes à la fin des années 2000, hein, qu'on peut appeler aussi une nouvelle industrie des services hyper individualisés. Et cela, c'était le nouvel esprit industriel économique qui était à l'œuvre, mais là où toutes les autres régions du monde avaient d'une certaine façon accepté leur défaite. Hein, elles avaient accepté leur défaite, le fait que les États-Unis, la Californie, la Silicon Valley particulièrement, étaient aux avant-postes de cette puissance industrielle. Eh bien, c'était l'heure de la grande revanche qui avait sonné. Et vous vous souvenez peut-être que vers les années, entre le début, c'était une période qui m'avait beaucoup marqué. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que j'ai mûri le livre « La siliconisation du monde ». J'ai inventé ce terme-là. ASME, de par le monde, des aspirations, des envies, des ambitions de toutes parts de dupliquer le modèle de la Silicon Valley. Alors, vous vous souvenez que tout le monde voulait devenir la nouvelle Silicon Valley. Alors, déjà aux États-Unis, il y avait à Miami, à Chicago, enfin tout le monde voulait être le duplic parce que c'était considéré comme le nouveau modèle économique et industriel lumineux et indépassable de notre temps. Et après, je fais même le liste dans mon bouquin que j'ai écrit à l'époque, je m'en souviens très bien, je m'étais amusé à rechercher ça. Mais alors toutes les régions du monde, hein, Buenos Aires, la Silicon Valley de l'Amérique du Sud, mais Rio, pareil, donc il faut vous entendre, mais Santiago aussi, et en Europe, Berlin voulait être la nouvelle Silicon Valley de l'Europe, et Paris, la French Tech, et Londres, enfin bref.
Québec également, hein, le premier ministre ici rêve de siliconiser la vallée du Saint-Laurent. Donc
c'est... Ah ben voilà, c'était un mouvement très marqué à l'époque, jusqu'à 2 ans plus tard, enfin au même moment en réalité, hein, en 2007, Emmanuel Macron, fraîchement élu à la présidence de la République française, affirme déjà, durant sa campagne haut et fort, vouloir faire de la France une start-up nation. Enfin, c'était le grand mouvement. Et ce grand mouvement, il entendait dupliquer et ce qu'il fallait voir et que peut-être on ne voyait pas suffisamment, au moment même où cette économie était célébrée de toutes parts. Je l'ai dit, parce qu'elle était considérée comme le nouvel horizon économique inépuisable via quoi ? Via ce qui avait été nommé l'innovation numérique et via la nouvelle idéologie entrepreneuriale de l'époque qui a fait tourner des têtes et dans laquelle tout le monde voulait y être. On y est revenu. Peut-être voyez-vous de quoi je veux parler. Je veux parler de la vogue des startups, hein, la startupisation du monde, qui entendait quoi ? Eh bien, transformer toute la collecte de données en service, hein, en service hyper individualisé, par l'objet principal que représente le smartphone, mais aussi par un mouvement technologique qui s'est largement développé à partir de cette période. Je veux parler de la dissémination de capteurs, d'interprétation des comportements, plus seulement les navigations ou l'accès à des plateformes, mais les comportements dans les maisons, dans les bureaux, dans les entrepôts, bref, de vouloir capter la vie en vue de transformer tout cela en dispositif technologique appelé à générer des profits. Donc cette servicisation de la vie, ce que j'ai appelé le technolibéralisme a entraîné une sorte de capitalisme de plus en plus irréfréné à l'échelle de la planète, et qui entendait à la fois marchandiser tous les pans de la vie, donc une sorte de nouveau stade hyper avancé du libéralisme dû à des poussées technico-économiques toujours plus sophistiquées, notamment via les capteurs et l'exploitation des systèmes d'intelligence artificielle qui ont commencé à se développer, se sophistiquer très considérablement. Il y a eu un saut à partir des années 2010, vous le savez, hein, notamment... parmi tant d'autres, hein, Brahim Bendjo qui est à Montréal et tant d'autres, hein, et Yann Lecoeur à Paris avec des nouveaux modèles, des nouvelles modalités de concevoir les systèmes d'intelligence artificielle. Et cela nous faisait entrer dans une sorte à la fois de passion collective, je pourrais presque dire d'hystérie collective, hein, de laquelle nous sommes revenus. Mais à l'époque, quand j'en ai fait la critique, j'en ai reçu des volées de pois verts, hein, j'en ai reçu des Éric Sadin qui voulaient revenir à la bougie. Non, je ne voulais pas revenir à la bougie. Je voulais analyser de façon critique, distanciée et argumentée ce large mouvement qui entraînait quoi, en quelques mots ? Une marchandisation intégrale de la vie par la collecte ininterrompue de données et la recommandation ininterrompue de services ou de produits supposés appropriés à chaque instant de notre quotidien, et engager une extrême rationalisation de la vie, notamment dans les modes de management sur lesquels nous reviendrons peut-être.
Mm-hmm. Et donc, effectivement, toute cette industrie est intimement liée aux recherches scientifiques, au financement des États capitalistes, aux avancées militaires même, et vous le soulignez, ou encore au désir civilisationnel relatif au progrès et à ce que vous avez nommé l'innovation. On peut dire effectivement sans douter que l'industrie 4.0 renforce l'appareil de capture capitaliste. Mais tu y vois assez clairement l'expansion d'un système capitaliste contribuant aussi à notre isolement collectif, une forme de continuité de l'éclatement engendré par les politiques néolibérales depuis les années 70. Mais en quoi, Éric Sardin, ce monde techno-industriel se met-il en place au détriment du bien commun?
Alors ça, c'est un point très important, cette notion d'isolement collectif que j'ai développée. J'étais pas peu fier, hein. Je suis content d'avoir trouvé cette notion, parce que j'ai l'impression qu'elle crée de l'écho, qu'elle suscite l'intérêt et qu'elle semble tellement en correspondance avec des phénomènes de l'époque. Alors je m'explique, c'est dans l'ère de la nuit du tyran que j'ai développé cette notion, un livre qui est paru chez Grasset en 2020. En gros, les logiques libérales, économiques, mais pas seulement économiques, politiques aussi, qui ont encouragé, à partir du début des années 80, l'ultra-responsabilisation de soi dans le travail, dans les modes de management, c'est-à-dire la prise en compte de programmes édictés par généralement des structures extérieures ou des cabinets de conseil, et qui supposaient à chacun de devoir s'emparer des projets avec les capacités qu'il avait, en donnant le meilleur de lui-même et avec l'idée d'être totalement renvoyé à soi-même, corrélé à l'idéologie de l'entrepreneuriat de soi, c'est-à-dire à un recul du principe de la solidarité qui commençait à être en vigueur dans toutes les démocraties libérales du Nord, hein, on va dire, au profit de et à la crise de l'emploi et de la désindustrialisation, a été célébrée l'idéologie de l'entrepreneuriat de soi, c'est-à-dire voilà, de s'en remettre à ses propres moyens, ou être indépendant, ou créer son entreprise, bref, les instances du salariat historique et de solidarité par la redistribution, la sécurité sociale, les organismes de soutien sociaux, eh bien, reculer dans les faits symboliquement au profit de la nécessité ou de l'injonction plutôt pour chacun de s'en remettre à ses propres forces. Et ce qui est très troublant, c'est que au moment où toute une histoire de la technique a accompagné une forme d'individualisation de la société, hein, je pense par exemple à l'usage des voitures encore des années 50-60, ou qui a vu un délaissement du transport public au profit d'une individualisation extrême des transports, des voyages, le camping, ensuite plus tard les magnétoscopes, tout ce phénomène d'individualisation de la société qui a été accompagné par une certaine évolution technique, un franchissement de seuil au moment de l'avènement simultané de deux événements technologiques majeurs sur lesquels nous continuons de vivre. Là encore, vous avez évidemment compris de quoi je parle. Exactement au même moment, l'avènement simultané ou la généralisation, on va dire, simultanée de l'Internet et du téléphone portable, hein, dans le dernier tiers des années 1990. Et qui a donné quoi ? Qui était une production technico-économique, hein, notamment les téléphones portables, d'une nouvelle industrie qui n'a cessé de s'étendre, de se développer. Et qui a donné les moyens et l'illusion aux individus à qui on leur disait de vivre des phénomènes de détériorisation, comme disait Deleuze, de glisser le long de lignes de fuite, permettant toutes les audaces de chacun entrepreneurial et menant au succès et à la lumière pour chacun. Eh bien, des technologies permettaient moins des phénomènes d'individualisation que d'illusion de reprendre en main sa vie. Hein, de reprendre en main sa vie, avoir des outils permettant davantage de mobilité, d'avoir accès à quantité de champs d'information, de pouvoir au fur et à mesure organiser sa vie de façon autonome, de se promouvoir, de faire la promotion de soi-même, jusqu'à l'avènement des 10 réseaux sociaux qui a vu l'exploitation par une certaine industrie de la volonté de tant d'individus de faire valoir ou leur frustration, ou la volonté de faire valoir l'opinion, qui a, contrairement à ce qu'on a entendu par, à mon sens, hein, j'ai beaucoup écrit sur cela, plutôt que la notion de réseau social, n'a fait, on en paye aujourd'hui le prix, et on s'en rend compte aujourd'hui à quel point, n'a fait que contribuer à une exaltation, à une primauté de sa propre parole et conséquemment un déni de la parole d'autrui, à un déchaînement de récits alternatifs plus fous que les uns que les autres, ayant même valeur de vérité que des faits à peu près objectivement reconnus, et ayant contribué à une brutalisation des échanges publics. Et c'est tout cela que j'ai appelé l'isolement collectif, c'est-à-dire le fait d'être toujours plus renvoyé à soi-même et poussé, favorisé par cet environnement technico-économique qui crée des face-à-face, notamment des face-à-face avec l'écran qui sont de l'ordre de l'isolement et de l'action menée à distance et qui a pris son acmé, comme par un très troublant hasard historique, avec la crise du Covid. Qui a vu par les confinements, du jour au lendemain, la nécessité et la découverte aussi, pour nous tous, de mener un nombre extrêmement étendu, même pour certains dont on ne savait même pas qu'elle pouvait se faire à distance et en ligne, d'action de la vie humaine. Alors le travail, c'est opéré une soudaine accélération, une intensification de nos pratiques numériques à quantité de pratiques, le travail, l'enseignement, les téléconsultations médicales, les relations interpersonnelles, plus que jamais en ligne, l'accès à loisirs, aux cultures, on en a beaucoup parlé de l'essor des plateformes de streaming de vidéos à cette période, jusqu'à des apéros WhatsApp, c'est extraordinaire comme concept, on est quasiment dans un concept anthropologique, c'est-à-dire boire des verres en ligne, c'est extraordinaire, comme isolement collectif, et volonté de créer du lien en plus, avec ce paradoxe, en même temps, vouloir créer du lien, jusqu'à, je terminerai mes exemples, parce que j'ai beaucoup analysé cela, jusqu'à des salons aéronautiques, des foires qui se sont organisées en ligne durant ces deux dernières années, en gros de mars, oui c'est ça, de mars 2020 au printemps 2000, ou disons à l'hiver de 2022, bon, et jusqu'à aussi des sommets de chefs d'État. Hein. Vous vous souvenez qu'avant les chefs d'État se rencontraient, se serraient les mains. Maintenant nous avons des écrans de mosaïque et ça s'institutionnalise. Donc c'est ce que j'ai appelé la télésocialité, hein, toujours plus généralisée, mais c'est comme un très 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 troublant hasard historique. La crise du Covid est devenue à la fois confirmer ça et donner une nouvelle impulsion à ça, et en étendant. Et je terminerai selon cette longue séquence, je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu long, avec l'annonce de notre ami Mark Zuckerberg en octobre 2021, qui annonce la transformation de son nom de Facebook en Meta et la volonté de développer le grand projet industriel Metaverse, c'est-à-dire à terme de tous nous enfermer dans des casques et pour engager, entraîner une pixelisation de l'existence et que chacun fasse alors là pour le coup un nombre quasi infini, en tous les cas en toujours plus grande extension d'action de la vie humaine, alors boire des coups avec des amis, voilà, via ces casques, et, des visites immobilières, des visites de parcs d'attractions, des musées, enfin quasi les relations amoureuses, les relations interpersonnelles, le cinéma, les loisirs, quasi toutes les actions de la vie humaine inimaginables et possibles, appelées à être intégrées dans des casques de casques de réalité virtuelle, ou en tous les cas sous forme de pixelisation, qui engage le fait d'être constamment relié à des compagnies privées, c'est-à-dire que le moindre ne souffle est orienté par des compagnies privées, donc c'est presque le mouvement d'aboutissement, j'ai presque envie de dire, de terminal de ce technolibéralisme qui veut capter chaque souffle du moindre de nos gestes en vue de les soumettre à une marchandisation et une orientation continue par des systèmes d'intelligence artificielle qui nous dit rencontrer telle personne, allez faire cela. Ce modèle-là, il va de soi, à mon sens, et je terminerai sur cela, que à la fois ce modèle du métaverse, qui est comme une sorte de lignée historique, hein, que j'ai développée disons de l'Internet jusqu'à aujourd'hui, c'est pour dire rapidement une grosse vingtaine d'années, eh bien on sent bien qu'aujourd'hui les consciences ont évolué. Hein, quand moi, tout le travail critique que j'ai développé au nom des années 2010, Simon, j'étais un peu seul. Je ne dis pas que seul, j'étais un peu seul. Aujourd'hui, c'est un peu la cause est un peu entendue, qu'il y a eu des excès, une hubris de cette industrie du numérique, et dont le métavers aujourd'hui ferait l'objet de formes de critiques ironiques ou de suspicions ou d'incrédulité. On ne va jamais entrer dans ce cauchemar, c'est un peu ce que tout le monde dit aujourd'hui. Or, il me semble que les choses vont être beaucoup plus conflictuelles que ça, parce qu'il y a des très très gros investissements industriels de toute l'industrie numérique à vouloir nous faire entrer dans ce cauchemar intégral du métavers, et que ce n'est pas seulement en se moquant de cela que ça suffira à engager des luttes. En vue de quoi? En vue de défendre le sensible, en vue de défendre des rapports charnels, en vue de défendre, de s'opposer à une marchandisation intégrale de la vie. Et cela devra faire, à mon sens, je l'espère, l'objet de luttes à diverses échelles de la société, entre ceux qui veulent une pixelisation qui entendent au nom de leur seul profit et d'une vision totalement hyper-optimisée de la société, et entraîner une pixelisation intégrale de nos vies individuelles et collectives, et entre ceux qui veulent défendre toutes les puissances de la vie, toutes les puissances de la sensibilité, et qui se refusent à ce que le monde marchand s'intègre dans chaque pan de nos existences jusqu'à la captation de notre sommeil. Là, il y a une lutte, mais ce que je veux juste signaler, c'est qu'elle a déjà largement commencé avec notre ami Zuckerberg aux avant-postes, mais tant d'autres. Moi, je fais de la veille tous les jours sur le métavers, ça va vite, ça ne cesse d'évoluer, on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre. Ce qui compte, c'est le mouvement en cours. Et le mouvement en cours est une sorte de mouvement post-Covid qui va entraîner une numérisation toujours plus intégrale de nos existences, alors que c'est cela même qui est critiqué aujourd'hui avec ce paradoxe, et le double paradoxe qui veut qu'il n'y a pas de forme de mobilisation à hauteur des enjeux.
On en arrive un peu aux enjeux qui sont plus propres à ton dernier livre, « Faire sécession », dans lequel tu critiques un peu l'incapacité d'une large part des discours, en tout cas même des formes d'organisation au sein de ce qu'on pourrait appeler la critique ou les luttes ou les mouvements sociaux, à prendre compte de l'importance que la numérisation du monde prend et va prendre dans les prochaines années, une numérisation qui s'insère de manière extrêmement intense, mais qui passe aussi paradoxalement très inaperçu. On retient entre autres de ta critique de l'écologie qui est devenue très populaire ces dernières années, qu'une piste de réponse à ce paradoxe serait que le monde numérique est devenu l'infrastructure en fait à travers laquelle la colère est suscitée et canalisée.
Absolument.
Donc, pour nous, c'est peut-être une des pistes là, des raisons pour lesquelles la numérisation en fait est en quelque sorte un point aveugle là, des luttes en cours.
Absolument. Ce que nous avons subi, en tout cas ce que nous avons expérimenté, connu, ce à quoi nous avons été confrontés depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis l'avènement des plateformes et l'extension des systèmes d'intelligence artificielle, dont je répète que souvent on parle d'intelligence artificielle sans savoir de quoi on parle exactement. Hein. L'intelligence artificielle, c'est un nouveau stade de l'évolution du numérique qui voit des systèmes capables d'interpréter, et le plus souvent en temps réel, quantité de situations, hein, à des vitesses infiniment supérieures à nos capacités humaines. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez dire, mais de quoi il parle là ? Ben, je donne un exemple. Waze, racheté par Google à une start-up israélienne en 2005, qui interprète en temps réel l'état du trafic, n'est-ce pas ? Que tout le monde utilise. Et est formée une connaissance qui dépasse notre connaissance sensorielle et physique de notre environnement. Mais ce n'est pas seulement ça, cette puissance d'interprétation, c'est une puissance de recommandation, de suggestion. C'est-à-dire de nous suggérer de prendre tel itinéraire plutôt que tel itinéraire selon les paramètres d'optimisation et de gain de temps. Vous allez me dire, il n'y a rien de mal à cela. Non, il n'y a rien de mal à cela. Mais c'est ce qui est en jeu dans ces systèmes d'intelligence artificielle et d'hyper-personnalisation des services. C'est-à-dire que dorénavant, ces systèmes-là sont dotés de la faculté très troublante d'orienter nos comportements, mais d'orienter selon des niveaux de pression qui sont toujours plus serrés, j'ai envie de dire plus pressants, c'est un peu redondant, excusez-moi. Un premier niveau que j'ai appelé un niveau incitatif, qui s'applique principalement aux individus. Un deuxième niveau que j'ai appelé suggestif, incitatif, prescriptif et coercitif. Alors, je vais en dire juste quelques mots. Le premier niveau incitatif, c'est le stade individuel de l'utilisation de toutes ces plateformes, de ces systèmes d'intelligence artificielle, comme Waze, hein, qui nous dit « agissez de telle manière plutôt que telle autre manière ». Prenez, allez dans tel restaurant plutôt que tel restaurant. Rencontrer telle personne plutôt que telle personne. Cette interprétation hyper individualisée et suggestion individualisée qui crée une pression sur la décision humaine, qui crée une pression. Alors, à des vues essentiellement hein, de marchandisation, et on peut se dire, oui, moi j'écoute, j'écoute pas, ma liberté n'est pas entamée, certes, mais il y a des formes de conformité qui ne cessent de se confirmer, c'est-à-dire, si c'est exact, quoi, hein, par exemple, ouais, ça marche super bien, hein, tout le monde sait que ça marche super bien. Donc, ce n'est plus vraiment de l'incitation. De plus en plus, c'est une sorte de conformité à ce que je voudrais que l'industrie a développé en vue de nous orienter à mener telle ou telle action et en vue de générer des profits. Donc, c'est le premier niveau. Il y a le niveau de... Parce que ce que j'ai développé au cours de mes recherches, c'est que l'intelligence artificielle est une instance à nous énoncer la vérité. Alors pourquoi je parle de vérité ? Parce que la vérité, à la différence de l'exactitude, c'est factuel. Hein. Il a fait beau tel jour, il a fait beau. Hein. Ce n'est pas une affaire de vérité. La vérité est toujours performative. Elle enjoint de faire les choses en fonction. Par exemple, la vérité religieuse qui dit, pour certains, il ne faut pas manger telle chose, ou il ne faut pas faire telle chose tel jour. Pour ceux qui suivent le dogme, ils s'y conforment avec une dimension performative. Ou la vérité des parents qui portent une valeur de vérité à l'égard des enfants qui disent « il est 21h, il est l'heure d'aller se coucher maintenant ». Et on s'y conforme, supposé s'y conformer. Et les systèmes d'intelligence artificielle énoncent la vérité, c'est-à-dire interprètent des situations et nous engagent à agir en fonction des résultats qui ont supposé être les plus pertinents et les plus conformes. Alors quand c'est individuellement, on voit bien comment on peut vite passer de l'incitatif à quelque chose qui relève d'une forme d'adéquation toujours plus pertinente et toujours plus personnalisée, qui fait que, eh bien, on sera toujours plus assisté et notre pouvoir d'autonomie de jugement est de plus en plus orienté par des systèmes. Et je pense, par exemple, parmi tant d'autres exemples, ce que j'ai nommé le stade incitatif, hein, dans les secteurs publics, par exemple, aujourd'hui, savez-vous que les cabinets de management utilisent de plus en plus des chatbots pour recruter des candidats et qui dialoguent avec des personnes intéressées par un poste et qui sélectionnent 5-6 candidats, c'est-à-dire qui énoncent la vérité. Pour l'instant, l'humain est encore à la boucle, dans la boucle, c'est-à-dire les cabinets de recrutement gardent 5-6 et puis décide à peu près, mais en 2030, avec la sophistication croissante de la technique, parce que les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas des systèmes stables, mais en sophistication continue, en évolution continue, ça va très très vite, et on peut imaginer qu'à terme, quantité d'actions de la vie humaine seront décidées, orientées par des systèmes. Et ce qui est très troublant, c'est qu'au moment où la technique, ou la technologie techno-logos, est appelée à nous dire la vérité, elle se met à parler. Alors ça, c'est très étrange. C'est les enceintes connectées qui se mettent à parler. Et vous êtes dans votre bain, Simon. On vous dit, allez prendre après tel huile essentielle parce que vous avez l'air fatigué au vu de toutes les données qu'on a. Ou allez rencontrer telle personne, allez voir tel film qui vous convient et vous parler avec elle. Parce que les enceintes connectées, contrairement à vous et à moi et à nous tous, on ne parle pas pour tout et ne rien dire, mais ont toujours une idée derrière la tête. C'est-à-dire nous faire... engager des transactions marchandes. Et je termine sur cette dimension incitative, de pression sur la décision humaine, qui pour moi ne fait pas du tout l'objet de suffisamment de mobilisation, ou même de nos préoccupations en société, alors que ça va être totalement... ça prend un tout nouvel essor avec la crise post-Covid, nouvelle ère post-Covid, du moins on l'espère, ça sera post-Covid, c'est le monde de la logistique. Alors, si vous voulez voir aujourd'hui une sorte de nouvel esclavagisme moderne, vous allez dans les entrepôts Amazon ou Nespresso, et qui voit quoi ? Exactement ces systèmes, développés par qui ? Par l'innovation numérique, qui a été célébrée de toutes parts au cours des années 2010, et qui voit des manutentionnaires, par exemple, recevoir des signaux sur leur caste audio, et d'aller chercher tel article dans telle palette et les déposer dans telle autre à des cadences infernales, réduisant les êtres à des robots de chair et de sang, les dénuant de toute capacité de décision autonome et leur singularité, et induisant une sorte d'automatisation des corps et des psychés qui est inacceptable en démocratie, selon des cadences dont on ne sait rien. C'est que la démocratie, ce n'est pas seulement la liberté d'expression, comme on le dit bien trop, mais c'est d'abord, avant tout, au sens du XVIIIe siècle, la publicité. La publicité. Être au courant des choses pour qu'on puisse se déterminer individuellement et collectivement en fonction. Les paramètres qui, par exemple, déterminent ces algorithmes selon des cadences infernales ne font l'objet d'aucune aucune visibilité, aucun accord en commun, au point de conduire à des troubles musculo-squelettiques et à des personnes qui s'effondrent au bout de 2-3 semaines. Donc oui, je pense que si ce qui s'est passé, notamment, pas que cela, moi, j'ai analysé ce que je considère être majoritairement structurant. Ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, c'est une dessaisie progressive, d'un point de vue individuel, à l'échelle individuelle et collective, de nos capacités à nous déterminer librement, en conscience, et notamment par l'usage de notre sensibilité et par des accords communs. Donc, quand on dit cela, on voit bien que l'aspiration, ça crée des souffrances, ça crée le sentiment d'être dessaisi de nous-mêmes, des conditions managériales toujours plus dures, des inégalités, un monde numérique toujours plus prédateur et qui ont des capitalisations boursières astronomiques qui font presque, dire que là, il y a une puissance telle que, ils détiennent la vérité et c'est eux qui façonnent le monde. On voit bien qu'une des aspirations majeures aujourd'hui, c'est d'être davantage partie prenante de nos existences, davantage agissant, alors que nous avons été de plus en plus saisis de nos capacités à agir individuellement et collectivement. Et pour cela, ce sont des modalités qui appellent à la fois une intelligence stratégique et une mobilisation. Or, il me semble que cela, nous ne l'avons pas assez fait, et ce travail n'est pas, peut-être, relève pas assez d'une... pas d'une... deux méthodologies plurielles correspondant à l'ampleur de la tâche, c'est-à-dire de nous ressaisir de nous-mêmes en vue de répondre à nos aspirations et aussi à toutes les aspirations de tendre vers un monde moins blessé, moins violent et qui laisse moins la planète. Mais ça, c'est... des belles paroles.
Toi, tourne effectivement ton dernier ouvrage « Faire sécession » et on pourra effectivement y revenir après la pause. Donc, une proposition de musique qui nous a été faite par toi-même, Eric, « All Along the Watchtower » par Jimi Hendrix.
Donc, on est de retour à Nous la Terre. On a abordé, avant cette pause musicale, tout l'aspect du développement technologique et à voir comment, effectivement, cet appareil de capture technocapitaliste se déployait, en fait, sur l'ensemble des sphères de nos existences. Éric Sadin, dans Faire sécession, tu en arrives à proposer que, plutôt que de se situer dans l'ici et maintenant, la tâche de la sécession serait d'évaluer le monde à partir d'un impératif catégorique, celui de l'interposition face à des situations qui ne correspondent pas aux valeurs auxquelles nous tendrions coûte que coûte. C'est-à-dire que nous serions prêts à nous battre pour ne pas qu'elles soient bafouées. Mais de quoi est-il question, en fait, lorsque tu parles de l'impératif d'interposition?
Très bien. Quand je parle de faire sécession, c'est pas sécession à l'égard de l'ensemble commun, c'est tout le contraire. Hein. C'est faire sécession à l'égard de certaines de nos représentations, de nos habitudes qui ont éprouvé leur inconséquence ou leur inefficacité, certaines formes de paresse aussi. Hein, je crois, moi j'avais relevé justement tout au long des livres que j'ai pu écrire et publié au long des années 2010, c'est qu'il y a eu deux phénomènes majeurs qui nous ont un peu dessaisis, enfin qu'on n'a pas assez, auxquels on ne s'est pas assez opposé, c'est celle des discours façonnés hein, de toutes parts, par les think tanks, par les entreprises, la transformation digitale des entreprises, enfin il y a toute une novlangue hein, et qui a fait que ça a donné presque parole de vérité à des modalités qui auraient dû faire l'objet de débats, qui auraient dû faire l'objet de contradictions. Mais vous savez, quand c'est des cabinets de conseil avec des mots anglais qui font des PowerPoint avec tout un langage qui paraît très, très, très sophistiqué, bah, ça cloue le bec. Hein. Les gens se disent, bon, bah, ils doivent avoir raison, ces gens-là. Et puis ça donne des bonnes, par exemple, managériaux totalement inhumains, où ça donne le bras ouvert par les politiques notamment, soit par des soutiens publics, soit par une reprise de discours à la numérisation de la société, jusqu'à l'école publique, l'enseignement, qui a créé beaucoup de dégâts. Alors je crois qu'on n'a pas assez critiqué les discours. Hein. Critiquer les discours, ça veut dire aussi faire valoir des contre-discours, des témoignages qui disent « bah non, ça ne se passe pas comme ça ». Par exemple, la crise du Covid en France, les gens pendant longtemps... les personnes des hôpitaux ont dit on souffre, on n'a pas assez de moyens. Ben, ils auraient dû témoigner, ils n'auraient pas dû seulement de temps en temps se plaindre quand il y avait des visites de politique, mais témoigner, organiser des organismes de transmission de leur connaissance, de leur existence, les faire du récit pour que la société, publicité, je parlais de publicité tout à l'heure, soit au fait de phénomènes qui nous regardent tous. Mais il y a aussi le fait que peut-être qu'avons-nous accepté trop de choses. Alors Simon, quand tu disais... comment ça peut s'opérer l'interposition. Je pense par exemple à un moment, je donne l'exemple de la France, et ça a été le cas dans beaucoup de pays, il était question que tous les collégiens, à partir de 12, 13, 14 ans, aient des tablettes numériques à l'école comme instance d'enseignement majeure. Alors, ça a induit plein de conséquences. Moi, j'avais créé à l'époque une tribune dans Libération qui s'appelait, en novembre 2014, « L'ineptie des tablettes numériques à l'école ». Hein, comme si on n'avait pas assez d'écran, que le livre n'avait plus de valeur, que les profs devaient plus être que des coachs de plateforme. Alors vous vous rendez compte, si les profs, certains profs qui avaient une conscience que là il y avait une dérive, une grande dérive par rapport à ce que suppose l'enseignement, ils étaient allés manifester. Comme moi quand j'écris la tribune, on m'a traité de gars qui voulaient revenir à la bougie. Hein. Mais non. Je critique ces nouveaux modes de transmission du savoir, si on peut appeler ça comme ça, qui remettent en cause des valeurs fondamentales. Je pense que nous avons trop accepté le recul des valeurs fondamentales. Et si ces groupes, par exemple, de professeurs, je ne sais pas de quelle proportion ça aurait été, auraient manifesté, qu'est-ce qu'on aurait dit? D'abord, ça n'aurait pas produit grand-chose. On aurait dit, oh les ringards, mec, c'est des quinquagénaires, ils n'ont rien compris au mouvement de l'époque. Mais si ils s'étaient interposés, ce que j'appelle l'interposition, c'est-à-dire de dire corps et âme, avec des convictions, au-delà des tropismes politiques de chacun, parce que ça bafoue nos valeurs fondamentales, ça bafoue ce que suppose l'enseignement, ça bafoue le fait que, comme dit Hannah Arendt, un étudiant, un lycéen, un écolier, on ne doit pas lui donner ce qui lui convient, mais au contraire, lui donner ce qu'il ne connaît pas, la surprise. Vous savez que ces plateformes, elles sont supposées être hyper personnalisées et donner ce qui convient à chacun, c'est-à-dire un cauchemar pédagogique, hein, c'est-à-dire tout le monde... à ce qui lui convient, la conformité en tout, c'est-à-dire allez-vous déprendre de vous-même, allez vers des étrangetés de la découverte si on vous donne exactement ce qui vous convient, ce que fait le livre, ce que fait la parole du professeur, bon bref. L'interposition, c'est-à-dire on ne veut pas, mettez-les, on ne les utilisera pas. Et c'est la faculté pour la société civile, pour chacun de nous, de ne pas être continuellement lésé par des décisions qui nous dessaisissent de nous-mêmes et qui font que d'un côté, en gros, il y a ceux qui ont parole de vérité toujours en vue de générer des profits, souvent par des logiques de lobbying, et ceux qui subissent des logiques dont on s'est aperçu à quel point elles pouvaient créer dans quantité de domaines des effets délétères. Donc s'interposer, c'est de dire, comme dit Albert Camus, au-delà d'une certaine limite, on ne veut pas, il n'en est pas question. Donc c'est aussi marquer le fait que franchir, dépasser certaines limites, en société, relativement aux valeurs, aux principes démocratiques fondamentaux qui nous gouvernent et qui nous inspirent et qui nous fondent, eh bien c'est inacceptable. Or, ce qui a caractérisé l'industrie du numérique jusqu'au délire transhumaniste, vous le remarquerez tout au long des années 2010, et notamment Zuckerberg avec son projet de métavers, qui continue dans cette logique-là, de quoi ? De déni de toute limite. De déni de toute limite. C'est-à-dire, limite, ça veut dire les métiers existants, Uber, Airbnb, les hôteliers, ben, c'est la disruption, hein, c'est la disruption créatrice, mais là, c'est plutôt autre chose. C'est chaque création de trucs, détruire tout ce que ça détruit, mais on s'en fiche, parce que c'est le mouvement inéluctable de l'histoire, portés par les technologies numériques, qui sont appelées depuis le début, le milieu des années 2010, les technologies de l'exponentiel, et qui, à vitesse exponentielle, donc que veut dire exponentiel, Simon et TP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que ça va à une vitesse toujours, sans cesse croissante, ça veut dire aussi qu'on n'a rien à dire, ça s'impose à nous, on n'a rien à dire exponentiel, et qui, à vitesse exponentielle, vont racheter tous les défauts de la planète en vue de générer des profits ininterrompus pour ceux qui développent ces systèmes. Donc ça façonne le propre de ces technologies tout au long des années 2010, c'est qu'elles ont façonné nos existences individuelles et collectives selon des modalités qui, je le redis, ont entraîné une marchandisation intégrale de la vie et une hyper-optimisation de la société, ce qu'une fois encore, je le redis pour une dernière fois, le métavers va organiser selon des degrés, si on y va, personne ne sait encore si on va y aller, une mesure intégrale, mais on va organiser sur une mesure telle que nous n'avons jamais connue et qui va créer une sorte d'étouffoir techno-capitaliste et une société toujours plus hygiéniste et où des systèmes nous disent à chaque instant la meilleure action à prendre pour une société de la conformité continue. Donc cela, ça appelle d'agir. Ça appelle d'agir. Je vous donne un exemple. Le télétravail. Il y a un mouvement là fort, mais ça induit plein de conséquences qu'on n'a pas le temps de développer. Hein, le télétravail, notamment des phénomènes d'isolement collectif, mais ça veut dire aussi des gains de coûts pour les industries en termes de locaux, mais ça veut dire aussi l'affaiblissement du salariat au profit de commandes à la tâche, du freelance, d'une nouvelle mondialisation qui est appelée à émerger, celle des services où, par exemple, si vous êtes une industrie québécoise, ben vous allez pouvoir faire affaire à appel non plus à d'internalisation, d'externalisation de gens, je ne sais pas, en Afrique ou à Madagascar, beaucoup moins cher que ceux qui ont le niveau de vie québécois, et ça crée des nouvelles formes d'asymétrie. Allons-nous accepter toutes ces modifications dont on nous dit qu'elles s'inscrivent dans le sens de l'histoire? Je pense qu'il serait temps de plus seulement gueuler sur les réseaux sociaux et faire valoir de façon névrotique l'expression, sa volonté d'expressivité, dont vous remarquerez qu'elle a le don, tout cela, tous ces postes, de ne rien produire, sinon de faire que chaque poste est aussitôt évacué dans les fils d'actualité ou les oubliettes du présent, comme je pourrais dire, et que ce décalage entre la parole, ce déluge verbal qui caractérise notre contemporanéité, et des actions concrètes et fructueuses, à mon sens, c'est un des drames de notre temps. Donc comment, à nouveau, engager des actions concrètes et fructueuses, à même de réparer tous nos maux et de nous engager vers des modes d'existence davantage épanouissants?
Et comment faire se répandre cet impératif d'interposition, selon vous, la critique que vous faites de l'écologie qui relève d'un caractère spectaculaire ou la critique de certains mouvements qui sont peut-être, selon vous, trop restreints à une certaine partie de la population comme celle de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, qui sont peut-être deux pôles de l'écologie actuelle, comment est-ce que l'impératif d'interposition peut se frayer un chemin entre les deux dangers d'avoir un caractère spectaculaire ou celui de se restreindre à une petite partie de la population?
Oui, la faculté d'interposition que je l'envisage, en tous les cas pour ma part, comme une seule, comme une des dimensions avec la critique des discours, mais la dimension, ça reste une dimension négative. La dimension positive, j'ai envie de dire, qui représente celle qui est à même de véritablement nous engager dans des modes d'existence, c'est celle de l'action, hein, de l'action positive, c'est-à-dire construire à toutes les échelles de la société des nouvelles modalités de vivre et de nous organiser en commun. Alors, ce qui me gêne avec le discours écologique qui est foisonnant, qui est presque assourdissant, et qui ne produit pas grand-chose, sinon de toujours nous en remettre aux politiques et à demander d'eux de toute la panacée, ce qu'il produit, c'est que, d'abord, on a l'impression que ça n'avance pas beaucoup et qu'il occulte d'autres enjeux de la société, hein, d'autres questions aussi fondamentales. Quand j'ai parlé des modalités de management, ce sont des questions majeures de société, hein, majeures, qui ne font pas l'objet de notre mobilisation. Et je pense que plutôt que de nous en remettre continuellement... comme Greta Thunberg qui a l'ivresse, hein, de faire ses dizaines de posts par jour sur Twitter à dénoncer les politiques comme si c'était eux, le rapport un peu oedipien à la Dieu le Père qui a tout le pouvoir et nous, les citoyens, on n'a plus que le pouvoir de gueuler sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire contribuant au réchauffement climatique par l'usage de serveurs. Donc là, il y a un paradoxe qu'on ne voit pas. C'est comme les nouveaux spécialistes d'écologie qui font des dizaines de vidéos par jour à nous raconter la catastrophe, alors tout ça participe du réchauffement climatique. Je pense que c'est à la base aujourd'hui qu'il faut envisager la prise en compte. Vous remarquerez la prise en compte, l'engagement vers des nouveaux modes d'action commun. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, jamais autant qu'aujourd'hui, il y a à la fois sensation, impression individuelle et collective de saturation à divers niveaux, à divers titres, et envie d'autre chose. Alors moi, j'encourage, c'est que plutôt que le revenu universel de base, je sais que je ne me fais pas que des amis en disant ça, qui vise finalement à entériner les situations en cours ou à acheter la paix sociale. C'est pas un hasard si les gourous de la Silicon Valley sont pour le revenu de base parce qu'eux, ils vont pouvoir organiser sans heurts l'automatisation de la société. Et on va donner un peu de subsides à chacun et leur permettre de vivre chichement. Ou alors à les transformer en pêcheurs à la ligne. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'argent public plutôt que de soutenir les start-up comme tant de gouvernements et d'institutions l'ont fait au cours des années 2010, qu'il y ait de l'argent public pour soutenir tous les projets alternatifs dans tous les domaines de la vie, pas seulement la permaculture ou l'agroécologie, mais tous les champs de la vie, que ce soit l'artisanat, que ce soit l'architecture, que ce soit le soin, que ce soit l'enseignement, que ce soit la restauration, que ce soit... Bref, tous les champs de la vie, selon des modalités d'échelle plus petite, parce que nous sommes victimes de la grande échelle, de la très très grande échelle, comme Ivan Illich l'avait bien relevé à une période, et selon qui instaurent des modalités interpersonnelles plus respectueuses de chacun et qui appellent plus la contribution active de chacun, et qui ne laisse pas la biosphère. C'est par nos modes d'existence, à ras de sol, en organisant un foisonnement de ce que j'appelle de collectif, qui aspire à d'autres modalités d'organisation, que à la fois on sera plus agissant, on vivra plus en accord à nos aspirations, et on développera des modalités plus respectueuses de la biosphère. Donc là, on est très très loin des discours, on est dans la question fondamentale qui nous regarde aujourd'hui, comment agir pertinemment et sans plus attendre.
C'est aussi les questions qui nous animent à l'émission, et c'est malheureusement tout le temps qu'on avait aujourd'hui pour en discuter, Éric Sabin, mais merci grandement pour cet échange. On invite en fait tous nos auditeurs à aller consulter vos ouvrages, donc votre dernier publié à l'hiver 2021, Faire sécession, une politique de nous-mêmes, publié aux éditions L'Échappée. On en profite également pour vous inviter ici à Québec au lancement de l'espace 13-2 qui se tiendra le 21 mai en soirée. Il y aura également le lancement d'une publication qui sera faite par le collectif Le Bestiaire. La campagne de sous-financement est toujours en cours sur le site de La Ruche, donc allez voir et contribuer généreusement à ce projet. Éric Sabin, merci encore beaucoup.
Merci à vous.
L'émission sera rediffusée vendredi à 11h sur les ondes de CKIA. Il est également possible d'écouter les épisodes en balado via le www.contrepoint.media ou encore le anchor.fm. En vous souhaitant une très belle fin de journée et à la semaine prochaine.
Tokyo, New York.